Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'AGT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 octobre et nous allons parler aujourd'hui du CAVA, le comité d'animation du quartier d'Avesnières, donc qui reprend tranquillement ses activités avec la rentrée. On va aussi entendre le témoignage de la seule visiteuse de prison de la Mayenne, Paulette Allier, qui justement nous expliquera sa mission. Et puis Soizy qui est avec nous en studio pour une nouvelle chronique, un autre écho de l'écho. Et enfin, on poursuit évidemment notre feuilleton auprès du Secours Populaire à Château-Gontier avec aujourd'hui une visite là aussi dans les rayons et nous verrons à quoi sert l'argent récolté par la vente de vêtements. Mais tout de suite, on va faire un point sur l'actualité. C'est le cinquième jour de grève pour les urgences à Laval, une grève illimitée pour alerter sur le manque criant de personnel. Au lieu de 16, ils sont un peu plus de 5 équivalents temps plein. Impossible pour Caroline Brémaud, la chef des urgences, de continuer dans ces conditions. La grève s'arrêtera lorsque nous pourrons présenter un planning digne de ce nom, explique-t-elle. Un recours à la réserve sanitaire a été demandé, sans succès pour le moment. Des violentomètres sur les sacs à pain. Le dispositif a été lancé par la ville de Laval et le collectif Nous Toutes pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes. Sur les sacs à pain, une règle avec 23 questions qui permettent notamment à une femme de savoir si elle est en danger par rapport à son conjoint. Et le numéro pour toutes les victimes de violences conjugales, le 3919. Les antipasses sanitaires se sont réunis hier à Laval et non samedi comme à leur habitude, puisqu'ils ont rejoint la manifestation en soutien à l'hôpital de Mayenne le week-end dernier. Hier soir, le rassemblement place du 11 novembre a attiré près de 200 personnes à l'appel du collectif Mayenne Liberté. Les écoliers de Saint-Germain-de-Coulamiers auront un petit déjeuner gratuit. L'école publique de la commune vient d'intégrer le dispositif national du même nom. Le but, c'est de permettre à tous les enfants de bénéficier de ce petit déjeuner le matin pour favoriser les apprentissages. Le coût de l'opération est de 1,30€ par enfant, pris en charge par l'État. Et puis pour diminuer vos déchets alimentaires dans vos poubelles, une solution, le compostage. Et pour inciter cette pratique, Laval Agglomération distribue gratuitement 1 000 000 de composteurs individuels pour ses habitants. Pour en bénéficier, il faut s'inscrire sur le site de Laval Agglomération, rubrique compostage. Et puis un retour à la normale attendu par le CAVA, le comité d'animation Vivre autour d'Avesnières, et non pas le nom que j'ai dit au tout début d'émission, ça c'est le bon nom. Le CAVA donc qui fait vivre ce quartier de Laval depuis 1987. Il est de créer du lien entre les habitants en organisant différentes activités et animations ponctuelles, forcément bloquées avec la crise sanitaire, mais qui ont repris avec la rentrée en septembre. Petit tour d'horizon non exhaustif avec Jean-Claude François, vice-président du CAVA.
Les activités autour de la culture avec une aide à l'achat de tickets de cinéma, une aide aussi pour les places de théâtre. Donc il y a des activités couture, décoration, etc. Il y a de la pétanque, de la belote, du tarot, du scrabble. Il y a de la randonnée. C'est assez diversifié. Le but, c'est évidemment de prendre en compte en fait, les souhaits, les besoins des habitants. Nous, notre démarche, c'est surtout de chercher à être le plus près possible des gens, de faire des choses peut-être relativement simples, mais qui correspondent en fait à ce qu'attendent un peu les gens, et surtout de faire en sorte que les choses soient accessibles au plus grand nombre, et qu'il n'y ait pas d'obstacles financiers. Hein, donc le quartier d'Avesnières est très très étendu, avec une population très diversifiée. Ça va donc de la polyclinique, en gros, du boulevard de la route de Saint-Nazaire, jusqu'à ici, le pont d'Avesnières. Donc c'est très étendu, très diversifié, hein, des populations complètement différentes entre les habitants du Tertre et les habitants de l'Épine. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même genre de population. Et le comité d'animation va s'intéresser principalement à l'ensemble des populations, mais avec un œil un peu plus attentif aux besoins des quartiers un petit peu moins bien lotis, on va dire. Donc dans nos activités aussi, il y a quelque chose d'important depuis quasiment le début du comité d'animation, qui est une aide à la scolarité pour les enfants. Donc là, on est en ce moment en pleine discussion sur ce sujet-là, parce que c'est une activité historique du comité d'animation, sur laquelle donc il y a une recherche apparemment de restructuration, c'est pas trop. Nous, on tient à conserver notre activité au niveau local, dans la mesure où on considère que notamment quand on s'adresse à des enfants en difficulté scolaire, on s'adresse à des familles qui sont difficiles quelquefois à mobiliser. Et pour les mobiliser, rien ne vaut une structure dans le quartier même. Plus on est prêt, mieux ça vaut. Par exemple, l'été, on va dans tous les quartiers d'Avenières, dans tous les secteurs, pour faire des animations. Alors évidemment, là, on a eu un petit souci. Et donc, on redémarre doucement.
Doucement, mais sûrement pour les prochaines semaines, avec une bourse aux jouets et un loto prévu au mois de novembre. On va entendre d'ici quelques minutes le témoignage de la seule visiteuse de prison du département. Mais avant, on fait une petite pause avec La Femme et son titre Paradigme. La Femme, c'est ce qu'on vient d'écouter dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et on va entendre tout de suite le témoignage de la seule visiteuse de prison du département, Paulette Allier. Elle se rend tous les mercredis à la maison d'arrêt de Laval pour rencontrer les détenus qui le souhaitent, pour échanger sur l'actualité, sur leurs proches, sur ce qu'ils veulent. En fait, le plus important, c'est de maintenir le lien social pour ne pas plonger avec l'enfermement et ensuite faciliter la réinsertion, une mission indispensable. Paulette Allier témoigne.
Je m'appelle Paulette Allier, j'habite dans le département depuis que je suis née. Je suis visiteuse de prison depuis pas mal d'années. Mais avant d'être visiteuse, j'ai enseigné en heure supplémentaire à la maison d'arrêt au quartier femmes pendant pas loin d'une dizaine d'années. J'ai commencé en 91 et en 2000, quand le quartier femmes a été supprimé, J'ai demandé à devenir visiteuse et j'ai été acceptée. Et puis voilà, bien sûr, ce n'était pas le même public puisque au lieu d'avoir des femmes, j'avais des hommes. Mais ça, ça ne m'effrayait pas du tout.
Et comment vous en êtes venue déjà, donc il y a maintenant presque 30 ans, même 30 ans, à faire déjà ces cours dans la prison donc pour femmes à cette époque-là? Qu'est-ce qui vous a incité à faire ça, à vous engager comme ça?
Ben, disons que j'avais fait une demande de spécialisation en tant qu'enseignante pour les élèves en difficulté. Donc j'ai suivi cette formation à Rennes pendant un an. Et quand je suis sortie de cette formation, j'ai été nommée sur un réseau d'aide dans les écoles primaires. Et très peu de temps après, en 91, il y a eu une demande de poste pour la maison d'arrêt en tant qu'enseignante. Donc j'ai postulé parce que j'étais déjà, disons, en fonction par rapport à des élèves en difficulté. Et je savais que bon, les personnes incarcérées, ce sont des personnes qui sont sûrement en grosse difficulté, voilà. Donc j'étais toujours plus attirée par les personnes en difficulté que par les personnes qui s'en tirent très bien et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'aide finalement.
Et alors ensuite, comment s'est passée justement cette transition après en visiteuse de prison?
Alors quand le quartier femmes a été fermé, je n'avais plus de raison de me déplacer à la maison d'arrêt. Mais j'ai pensé que j'aurais peut-être une autre action à faire par rapport aux détenus hommes. Donc j'ai fait une demande. J'ai eu un entretien avec le, il me semble, si mes souvenirs sont bons, avec le directeur du SPIP et avec le chef d'établissement de la maison d'arrêt à ce moment-là. Et j'ai été acceptée.
Et alors après, comment ça se passe déjà? Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs tout simplement ce que c'est être visiteur ou visiteuse de prison?
D'abord, on sait qu'on va se déplacer, rencontrer une personne qui est privée de liberté. Non, on sait qu'on peut faire des choses, mais qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire. Notamment par rapport au courrier, on ne peut pas, emporter du courrier pour le poster, on ne peut pas téléphoner à un membre de la famille ou à des amis pour communiquer, parce que là on risquerait de fausser la suite, on ne peut pas les enregistrer, bien sûr. Je m'imagine pas, venir avec mon magnétophone, ça c'est complètement interdit. Donc, quand on rentre à la maison d'arrêt et qu'on entre en prison ensuite, on a un casier où on dépose ses affaires, tout ce qui est téléphone, papier personnel et tout. Et ensuite, on demande une personne à voir et on a un petit parloir dans lequel on est seul avec la personne. Bon, ça, à chaque fois, j'ai jamais eu de problème, ça se passe toujours très bien, quoi. On discute de choses et d'autres, du beau temps, mais ça peut être des sujets d'actualité, ça peut être les conversations peuvent concerner sa famille, ses soucis. Disons qu'on reste surtout à l'écoute, parce que on n'est pas psychologue, on n'est pas là pour, apporter certaines aides, quoi.
Vous disiez, vous n'êtes pas psychologue non plus, vous êtes là pour écouter beaucoup. Est-ce que, avant de commencer votre formation, ou peut-être même tout au long, vous avez justement des indications ou une petite formation avant de commencer votre mission?
Alors, au début, en tant qu'enseignante, je n'ai pas eu de formation puisque j'étais dans l'éducation nationale. Et évidemment, j'avais ma formation sur le plan professionnel. Après, quand je suis devenue visiteuse, j'ai eu une petite formation. Oui, on rencontre des gens, notamment de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison. Et dans ce cadre-là, j'ai eu une formation. On nous donne des conseils et après, on peut. Et si on a un problème, on peut toujours faire appel à eux. Quoi qu'ils aient fait, ils sont là. On est là un peu pour les sortir de leur milieu, enfin les sortir entre guillemets, de leur milieu, et de façon à, disons, à ce qu'ils gardent le contact avec l'extérieur, parce que c'est très difficile pour eux quand ils n'ont plus de contact avec l'extérieur. Je m'en suis surtout rendu compte au moment où on a eu le changement de monnaie, qu'on est passé à l'euro. Certains s'inquiétaient beaucoup du passage à l'euro parce qu'ils disent comment on va s'en tirer avec cette nouvelle monnaie, et ils avaient peur, ça leur faisait un peu peur, quoi.
Et donc vous étiez là, ce lien aussi qui les maintenait avec l'extérieur, c'est ça? Puisque c'est peut-être des détenus qui n'ont pas de famille qui vient les voir ou de proches qui vient les voir?
La plupart du temps, on me demande d'ailleurs toujours de prendre, disons, des détenus qui n'ont pas de parloir, c'est-à-dire que la famille ne vient pas, ou il n'y a plus de famille, ou les amis, y en a plus, parce que comme ils disent, hein, quand on est en prison, les amis ou la famille, on peut les compter sur les doigts et d'une seule main, et ça suffit, quoi. Donc finalement, quand on est avec eux en plein Loir, ça leur fait une petite bouffée d'air, quoi. Et c'est pour ça qu'on est. Ils nous attendent quand on vient pas. Ça, si jamais on loupe, bon, c'est vrai que moi j'essaie toujours de les prévenir en leur disant bon, la semaine prochaine, comptez pas sur moi, parce que voilà, j'ai ma famille aussi, j'ai mes petits enfants qui arrivent. Mais je veux les informer. Et quelquefois je leur dis non, je pourrais si je ne viens pas un mercredi, puisque moi j'y vais régulièrement tous les mercredis, je leur dis écoutez, ne vous inquiétez pas, c'est que vraiment j'ai eu un empêchement et puis je reviendrai dans 15 jours, quoi.
Mais en tout cas, c'est un rendez-vous vraiment attendu pour eux et donc pour vous à honorer aussi, ce qui est normal.
Oui, oui, oui. Il faut respecter ce rendez-vous, que ce soit pour les uns ou pour les autres, quoi. Mais bon, quoi qu'un détenu, c'est vrai, en fonction des nouvelles qu'il a pu recevoir, il peut dire moi, alors non, moi je veux pas voir la visiteuse là, j'en ai, ça sera pour la semaine prochaine peut-être, mais pas aujourd'hui.
Oui, ça peut
c'est
arriver
un droit
aussi.
Ils ont ce droit là.
Donc là, vous citiez tout à l'heure le passage à l'euro qui vous a marqué parce que justement, il y avait cette angoisse des détenus de comment ça allait se passer.
Oui.
Est-ce qu'il y a des moments marquants pour vous ou pour eux aussi?
Les moments marquants, c'est plutôt pour eux. C'est notamment quand ils arrivent. Parce que bien sûr, surtout si c'est la première fois, ils découvrent un monde qu'ils ne connaissaient pas du tout, et ça c'est difficile à accepter. La fouille, l'isolement, enfin, ils sont vraiment coupés du monde. Et puis ça c'est un moment difficile. Mais il y a d'autres moments difficiles aussi, des moments justement quand ils sentent qu'ils vont être libérés. Quelquefois sortir, ça leur fait peur aussi. Parce que comment ça va se passer quand je vais être dehors? Comment va me recevoir la famille? Comment mes amis vont-ils revenir? Enfin, ils doivent se poser des tas de questions, et ça je peux pas mesurer, mais je sais que ce sont des moments à risque notamment pour leur santé, puisqu'ils peuvent en arriver certains malheureusement au suicide.
Et donc justement, pour éviter d'en arriver à cette extrémité, est-ce que certains arrivent justement à se confier aussi sur ces angoisses, en tout cas ces inquiétudes?
Oui, certains arrivent à se confier. Ils en arrivent même, alors qu'on n'a pas à leur demander, à me dire pourquoi ils sont là. Mais s'ils veulent pas dire, j'ai pas à leur demander, et ils peuvent garder, c'est leur secret. Au moins, ils gardent ça pour eux, quoi. Même si c'est difficile à garder, ça dépend, du délit qu'ils ont commis, quoi. Moi, je leur ai dit, de toute façon, je ne suis pas là pour vous juger. Où vous êtes jugé, où vous allez être jugé bientôt. De toute façon, c'est une maison d'arrêt, donc là, c'est normalement avant le jugement. Et dans cette maison d'arrêt, ils sont là pour au maximum 2 ans. Hein. C'est en attendant le jugement. Et puis pour les petites peines, ils peuvent rester peut-être un petit peu plus longtemps. 2 ans, 2 ans et demi, de façon, surtout s'ils sont du département, ils finissent leur peine ici. Mais pour les peines un peu plus importantes, disons que c'est un centre de détention. Et ça, ce sont pour les peines beaucoup plus longues. Et pour les peines encore, disons, les peines plus longues encore, et disons, pour les, ou les détenus qui sont considérés comme vraiment dangereux, c'est la maison, une maison centrale, quoi. C'est...
Pour l'instant, vous êtes la seule visiteuse de prison ici à la maison d'arrêt de Laval, et que j'imagine qu'il y aurait aussi d'autres besoins, donc si certains sont intéressés, pourquoi pas vous rejoindre, entre guillemets, c'est-à-dire devenir eux aussi visiteurs ou visiteuses de prison. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui hésite, qui a peut-être des appréhensions, se dire, bon, déjà, rentrer dans une maison d'arrêt, c'est pas facile, peut-être que le contact n'est pas évident. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne comme ça qui hésite un petit peu?
Ce que je pourrais lui dire, et qu'on me dit souvent, mais t'es pas bien d'aller dans une maison d'arrêt, là, hein, t'as des gens qui sont dangereux. Et non, moi, je me suis jamais sentie, insécurisée, quoi. Non, on est avec des gens qui ont fait des délits, petits ou gros délits, mais jamais je me suis sentie en danger. Et bon, il y a quand même les surveillants qui sont là, il y a un cadre, et je pense que s'il y a une personne qui est vraiment dangereuse, étant donné que la demande du détenu est étudiée par le SPIP, là ils vont pas me confier une telle personne. Je crois que se déplacer, évidemment, quand on arrive dans une maison d'arrêt, surtout à Laval, ce sont encore les murs épais. Moi, c'est ça qui m'a fait drôle au départ. On a l'impression que ça va vous tomber dessus, tellement c'est lourd, quoi. Bon, on s'y habitue, et puis bon, c'est vrai que passer toutes ces portes, quand on passe pour aller voir un détenu, je passe une porte, ensuite je passe sur le détecteur de métaux, j'ai une deuxième porte, un sas et une autre porte, et enfin je peux aller. Mais on se sent sécurisé quand même. On n'est pas en danger. Après, il faut, savoir être à l'écoute, et puis. C'est un échange entre le détenu et le visiteur, mais cet échange normalement, est personnel. On n'a pas à le divulguer. Ça doit rester entre nous, quoi. La seule chose qui peut arriver, c'est que moi je sente une personne vraiment en danger parce qu'elle a des idées noires. Et là, franchement, si c'est le cas, je me sens dans l'obligation d'avertir l'administration. Mais j'ai l'impression qu'elle fait un appel, quoi. Donc, autant l'aider de ce point de vue, quoi.
Pourquoi est-ce que, finalement, vous êtes toujours autant investi dans cette mission pour justement apporter cette fameuse bouffée d'air aux détenus? Vous pensez que c'est important?
Ben oui, c'est important. Plus qu'important, parce que bon, certains sont tranquilles tant que les détenus sont en prison, mais il faut bien se dire que les détenus vont sortir un jour. Il faut qu'on les aide justement à maintenir ce lien entre, disons, la prison et l'extérieur. Il faut leur faire confiance. Et puis, certains détenus, quand même, ils savent qu'ils vont payer ce qu'ils ont fait. Donc, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent retrouver leur place dans auprès de leur famille, auprès de leurs amis et dans la société, quoi. Enfin, moi, c'est tout ce que je leur souhaite de bien, quoi.
Paulette Allier, qui est aussi écrivain public à la maison d'arrêt, elle écrit à la place de certains détenus des courriers destinés à leur famille, leur médecin ou leur avocat. Pour vous aussi devenir visiteur de prison, vous pouvez contacter le SPIP 53 au 02 43 56 45 96. On va parler prix Nobel avec Swazik tout à l'heure, mais pour l'instant on écoute H. Burns avec I Sailed in Troubled Waters. Trouble all the way. Burns avec I Sail in Troubled Waters dans la JT du local sur l'autre radio. Et aujourd'hui, comme un mercredi sur deux, on a le plaisir de retrouver Soizic pour sa chronique Un autre écho de l'écho. Bonjour Soizic déjà.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui donc, vous nous donnez des nouvelles des prix Nobel.
Et oui, parce que lundi, le prix Nobel d'économie a couronné trois économistes. Le Canadien David Card, et puis Joshua Angrist et Guido Imbens. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin bon. Une fois de plus, donc, un prix américano-centré, comme d'habitude. Alors rappelons d'abord que le prix Nobel d'économie en tant que tel n'existe pas. Mais oui, parce que dans son testament, Alfred Nobel n'a jamais mentionné de prix Nobel d'économie, déclarant ce dernier, je cite, « haïr l'économie du fond du cœur ». Alfred Nobel ne considérait pas les sciences économiques suffisamment objectives et solides pour être mises dans la même corbeille à prix que la physique ou la chimie. Ce n'est donc pas le prix Nobel d'économie qu'ont reçu les trois acolytes, mais le prix de la Banque centrale de Suède en mémoire d'Alfred Nobel.
Et alors, quel est l'objet de leurs travaux, Soizic ?
Eh bien, la vénérable institution a fait preuve d'originalité, puisque les découvertes de ces trois économistes ne cadrent pas vraiment avec la pensée dominante. Le trio, je cite le jury Nobel, « nous a apporté de nouvelles idées sur le marché du travail et montré quelles conclusions peuvent être tirées d'expériences naturelles ». Alors en effet, ils ont analysé, avec des expériences grandeur nature et non pas en laboratoire, les conséquences de phénomènes qui jusqu'alors étaient réputés augmenter le chômage, mais qui, dans les cas étudiés, mettaient justement à mal ces conclusions, qui étaient pourtant unanimement admises. Alors, je m'explique. Pour la pensée économique classique, et je pense d'ailleurs aussi intuitivement pour beaucoup d'auditeurs, un afflux de main-d'œuvre étrangère crée un surplus de demandeurs d'emploi, ce qui exerce une pression à la baisse sur les salaires. Or, il s'avère que quand David Card a regardé ce qui s'est passé lors d'un afflux de 125 000 migrants de Cuba en Floride, le chômage n'a pas augmenté, il a même diminué. Que s'est-il passé ? Quel tour de passe-passe ? Eh bien, c'est simplement que les nouveaux arrivants ont aussi été des consommateurs. Ils ont donc accru la demande de biens et services et donc la production des entreprises, évidemment, locales. In fine, comme disent les économistes, ils ont donc généré par leur arrivée des offres d'emploi supplémentaires. De même, dans l'opinion publique, comme aussi pour bon nombre d'économistes de la pensée dominante, un accroissement de salaire provoque mécaniquement une diminution des offres d'emploi, les employeurs préférant substituer des machines aux travailleurs ou encore délocaliser leur entreprise. Alors que, quand en 1992, dans l'État du New Jersey, quand le SMIC local a été augmenté et que l'État voisin de Pennsylvanie, lui, ne l'a pas fait, il a donc conservé un prix horaire plancher inférieur à celui du New Jersey, on pouvait s'attendre à ce que le chômage augmente dans le New Jersey. Eh bien, il n'en a rien été. Pourquoi ? Tout simplement parce que le salaire n'est pas le seul facteur déterminant de l'emploi. Si les employeurs ont réellement besoin de salariés pour assurer une production quand les débouchés sont assurés, eh bien le salaire n'est plus un frein à l'embauche. Alors, il faut qu'il reste dans des proportions décentes, mais tout de même. Et c'est d'ailleurs ce que l'on observe actuellement en France avec la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, les employeurs ne vont pas couper au fait d'accroître les salaires pour retrouver une main-d'œuvre prête à faire fonctionner leur business.
Mais alors, les Américains deviendraient-ils des révolutionnaires en économie ?
Oh non, Marie, je vous rassure. En effet, Joshua Ingrist, qui avait également montré en étudiant l'immigration yougoslave dans les années 90 en Europe, que le chômage augmentait bien plus fortement quand les institutions du marché du travail et du marché des biens et services étaient rigides. Autrement dit, et là on retrouve quelque chose de plus classique, pour diminuer le chômage, il faut assouplir le marché du travail, déréguler et encore déréguler. En gros, réaliser enfin le rêve de l'Union européenne, libéraliser totalement le marché du travail. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait l'Espagne et la Grèce. On voit effectivement que ça a largement contribué à diminuer leur taux de chômage. Marie, je vois sur « je plaisante »,
oui.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, on flirte encore, enfin ces pays-là, hein, malheureusement, flirtent encore avec les 16% de la population active au chômage.
Alors, Soisy, quelles leçons on peut tirer de ce prix Nobel partagé, finalement ?
Eh bien, les travaux couronnés, qui vont à l'encontre de ce que la science économique dominante nous enseigne depuis 40 ans, et au passage que l'on est d'ailleurs censé apprendre aux élèves qui suivent la spécialité de sciences économiques et sociales au lycée, montre bien une fois de plus, et c'est cela qui est passionnant en sciences sociales, que ces sciences ne peuvent pas se résumer à une mise en équation du monde. Ce qui est vrai ici ne l'est pas forcément ailleurs. Des contextes, des institutions et des environnements différents appellent des solutions différentes. Il faut donc se garder de tout dogmatisme et de la tentation de répliquer à l'envi un même remède sur des situations critiques différentes. Adaptation, souplesse, réflexion et esprit critique, telles sont les qualités à ne jamais perdre de vue quand on veut faire intelligemment de l'économie.
Merci beaucoup Soisic pour cette chronique autour du prix Nobel de l'économie, ou presque le prix Nobel en tout cas, on l'a bien compris. On va passer au troisième épisode de notre feuilleton auprès du Secours Populaire à Château-Gontier. À Château-Gontier, l'antenne s'occupe exclusivement de vêtements pour tous et d'articles pour les enfants. Géré par une petite dizaine de bénévoles, le vestiaire a une partie femmes, hommes et enfants, c'est ce qu'on disait hier. Et on poursuit la visite avec Jeanne Lemaître, la secrétaire générale du Secours Populaire de Château-Gontier.
Alors, quand les gens entrent, on leur met un panier à leur disposition et on les laisse regarder. Et on leur dit, si vous avez besoin d'un conseil, nous sommes là. Y a une cabine d'essayage, il y a aussi des glaces pour voir. Et souvent, les gens nous disent, qu'en pensez-vous ? Essayez de conseiller, mais par rapport à la personne et pas personnellement. Des fois, c'est très amusant. On voit des personnes âgées qui vont aller vers des choses très modernes. Hein. C'est très agréable, d'ailleurs, ce côté-là. Hein. Il n'y a plus de génération. C'est l'envie. Et puis, je pense que c'est agréable, effectivement, de rentrer. Et les gens, on a autant le sourire s'ils sortent sans rien du tout. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui viennent nous voir régulièrement. Des personnes âgées, par exemple, c'est leur petite promenade. C'est avant tout du social. Hein. Par contre, on demande une participation financière, mais les familles en grande difficulté passent par le biais d'une assistante sociale et à partir de là, c'est la gratuité. Donc c'est le moyen qu'on a permis de dissocier le tout public, les gens qui ont des possibilités financières, de ceux qui n'en ont pas du tout. Il y a des affiches tout public et voulu le tout public, ce n'est même pas pour le financier, ça permet justement à la personne qui est en difficulté d'arriver comme dans un espace de magasin. On ne vous demande pas si vous avez des revenus ou si vous n'en avez pas. On essaie de faire ça le plus possible dans la confidentialité si c'est envoyé par une assistante sociale. Et là, la personne, elle peut regarder, elle peut essayer pour se faire plaisir. Et le mélange de genre, c'est vraiment ça, pour pouvoir se réintégrer, avoir une nouvelle vie quand on a eu des gros soucis, pour les oublier quand ils... Même si une fois sortis, les soucis sont toujours là. Donc c'est le but, de faire quelque chose le plus chaleureusement possible pour accueillir les gens et répondre à leurs demandes.
En tout cas, c'est ce que la petite dizaine de bénévoles du Secours Populaire à Château-Gontier s'échine à faire toutes les semaines. Et demain, on va s'intéresser au projet accompagné justement grâce à l'argent récolté par le vestiaire. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Mais ne partez pas, puisqu'à l'antenne à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Déclectic Jazz. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h15 demain. D'ici là, passez une très bonne journée et donc à demain.